Vous écoutez On lit pour vous.
C'est beau, un orme. Un texte de Danny Turcotte, paru le 14 juin 2026 dans la presse. En ce moment de l'année où ils ornent nos rues et nos parcs, notre collaborateur lance un hymne aux arbres, ces êtres vivants si essentiels à l'existence du reste. Pas facile de le dire publiquement, car je sais qu'on va me juger. Je serai encore victime de séances de lançage de fumier sur les réseaux sociaux. Je connais ma vraie nature depuis que je suis tout jeune. C'est simplement plus fort que moi. Du plus loin que je me souvienne, cette préférence m'a toujours habité. En ce dimanche du mois de juin, j'ai la furieuse envie de le hurler à tout vent. J'aime les arbres. Je les aime tous. Des petits rachitiques plantés dans un lieu sans lumière, dans de la mauvaise terre, aux majestueux peupliers deltroïdes du parc La Fontaine, si gros qu'il faut se mettre à quatre pattes pour en faire le tour avec nos bras. Je ressens une vive émotion quand j'admire ceux qui ont réussi, malgré toutes les intempéries climatiques imaginables, à pousser au bord d'une falaise, pratiquement sans terre. Ils sont, par leur remarquable résilience, des métaphores de nos propres vies. En plus de servir de tour de condo à une foule d'animaux, d'insectes, de champignons et de mousses, ils absorbent le CO2, préviennent l'érosion et rafraîchissent l'air. Ils sont aussi la meilleure arme pour lutter contre les changements climatiques. À son arrivée au pouvoir en 2015, le gouvernement du conjoint de Katy Perry s'était engagé à en planter 2 milliards. 11 années plus tard, on n'en aurait mis en terre que 228 millions. Une violente coupe à blanc dans le budget a abruptement mis fin au programme avec l'arrivée en poste de l'ancien ami de Stephen Guilbeault. Notre nouveau premier ministre canadien, considéré comme géant vert avant son élection, s'est métamorphosé en tout petit pois au contact des réalités du pouvoir. Une des façons les plus communes de marquer un événement est de planter un arbre qui deviendra le symbole historique de ce moment. On le fait pour souligner une naissance, un mariage ou pour se souvenir du départ de quelqu'un. De nouveaux rites funéraires sont maintenant offerts. Vous pouvez même devenir un arbre à votre mort. En lieu et place d'un cimetière, on marche dans une forêt et chaque arbre commémore une personne. À la mort de mon professeur, ami, frère Dominique Lévesque, j'ai planté un arbre dont les racines ont poussé grâce à ses cendres. L'arbre est devenu un monument qui fait teinter ma mémoire chaque fois que je passe devant. Chaque mois d'avril, le réveil des bourgeons et l'arrivée du célèbre vert tendre m'émeuvent encore autant, même après 61 printemps. Combien d'artistes ont été inspirés et ont célébré la rassurante présence des arbres? Vigneault, qui a planté un chêne au bout de son champ. Zachary Richard, dont l'arbre était dans ses feuilles. Brassens, qui vantait les joies d'être auprès de son arbre. Ou encore Isabelle Boulay, qui n'en finissait plus de pleurer jusqu'à en devenir un saule inconsolable. Et plusieurs se portent à leur défense, tant le poète Richard Desjardins qui veut sauver la forêt boréale que le Parti conservateur du Québec qui s'offusque de l'abattage d'arbres sur le boulevard René-Lévesque à Québec pour le passage du tramway. Je crois qu'il est plus contre le tramway que pour les arbres, mais c'est hors sujet. Leurs essences nobles font également la fierté des artisans. Le frêne, le merisier, le noyer noir et le chêne meublent nos maisons et ces pièces de patrimoine se transmettent de génération en génération, comme le témoin d'une course à relais historique. Les Québécois ont aussi un rapport quasi religieux avec l'érable. Un complexe procédé d'extraction d'eau par chalumeau permet d'en extraire un nectar digne de la potion magique de Panoramix. Cet élixir printanier est pratiquement devenu l'huile essentielle de la québécitude, du sirop de Gilles Vigneault. Les arbres sont aussi, malheureusement, marqueurs de classe sociale. Dans une ville, plus le quartier est habité par des nantis, plus la canopée est grande. Pendant que les riches savourent un gelato à la pistache à l'ombre d'un érable rouge, les pauvres se gèlent les dents sur un popsicule à l'orange en plein soleil dans leurs îlots de chaleur. Notre langage est également gossé par une multitude d'expressions forestières. On touche du bois par peur d'être foutu. On n'est pas fait en bois quand on s'émeut. On a la gueule de bois quand on a trop bu. On n'est pas sorti du bois quand on est perdu. On a la langue de bois quand on est élu et on ne veut surtout pas se faire passer un sapin. Soyez-en prévenus. Jusqu'à maintenant, dans ma vie, j'ai planté une centaine d'arbres. Pour l'instant, je suis bien loin de la vocation spirituelle du personnage du chef-d'œuvre de Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres, mais l'été ne fait que commencer. Regardez-moi bien aller. C'était « C'est beau, un orme ». Un texte de Danny Turcotte paru le 14 juin 2026 dans la presse.
Alzheimer. Une femme retrouve temporairement la mémoire et la parole après la prise de champignons à psilocybine. Un texte de Christelle Cherrier paru le 17 juin 2026 dans Futura Science. Un simple cas clinique ne suffit pas à changer la médecine, mais il peut parfois ouvrir de nouvelles pistes. C'est précisément ce qui s'est produit avec cette observation étonnante d'une patiente atteinte d'Alzheimer ayant montré une amélioration temporaire après l'administration de psilocybine. Peut-on réveiller des capacités que l'on croyait définitivement perdues chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Une étude de cas récemment publiée dans Frontiers in Neuroscience rapporte une observation aussi étonnante qu'exceptionnelle. Après l'administration de champignons contenant de la psilocybine, une femme souffrant d'une forme très avancée de la maladie a présenté une amélioration temporaire de plusieurs fonctions, notamment de la communication, de la mobilité et des interactions sociales. Alzheimer. Les chercheurs ont observé un phénomène totalement inattendu chez une patiente à un stade avancé. Les champignons à psilocybine, parfois appelés champignons hallucinogènes ou champignons magiques, contiennent une substance psychoactive capable de modifier temporairement la perception, les émotions et le fonctionnement du cerveau. Ils font aujourd'hui l'objet de recherches pour traiter certaines maladies psychiatriques, mais leur utilisation dans la maladie d'Alzheimer reste très expérimentale. L'étude décrit le cas d'une femme de plus de 80 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis une dizaine d'années. Depuis 5 ans, elle parlait à peine, souffrait d'incontinence urinaire, avait des difficultés à marcher et à avaler et dépendait presque entièrement de ses proches pour les gestes du quotidien. Dans un cadre exploratoire, elle a reçu une dose de 5 grammes de champignons contenant de la psilocybine. Après une phase marquée par une forte transpiration et un sommeil profond prolongé, un phénomène inattendu s'est produit. Environ 19 heures plus tard, elle s'est mise à raconter spontanément des souvenirs de sa vie pendant plusieurs heures. Les jours suivants, son état s'est amélioré sur plusieurs aspects. Elle marchait plus facilement, échangeait davantage avec sa famille, exprimait mieux ses émotions et avait même retrouvé une continence urinaire qu'elle avait perdue depuis plusieurs années. Une seconde prise, un mois plus tard, a de nouveau été associée à une meilleure communication et à des interactions sociales plus riches. Un résultat encourageant, mais pas un traitement contre l'Alzheimer. La psilocybine agit sur certains récepteurs du cerveau et modifie la façon dont différentes régions communiquent entre elles. Des expériences menées en laboratoire laissent penser qu'elles pourraient aussi favoriser la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer ou réorganiser ses connexions. Mais les recherches sur la psilocybine dans la maladie d'Alzheimer n'en sont encore qu'à leur début. Aucun autre cas publié n'a rapporté une amélioration aussi spectaculaire chez une personne atteinte d'une démence aussi avancée, et les essais cliniques actuels portent surtout sur des patients à un stade précoce de la maladie. Comme le soulignent les auteurs de l'étude, ces résultats n'impliquent pas une rémission de la maladie, mais il suggère que certaines capacités du cerveau restent présentes malgré la maladie et peuvent être réactivées temporairement dans certaines conditions. Si cette hypothèse se confirme dans de futurs essais cliniques, elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches pour améliorer, ne serait-ce que temporairement, la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches. C'était « Alzheimer, une femme retrouve temporairement la mémoire et la parole après la prise de champignons à psilocybine », un texte de Christelle Cherrier, paru le 17 juin 2026 dans Futura Science.
L'identité numérique québécoise existe déjà et elle a été créée par deux immigrants. Un texte d'Alain McKenna, paru le 10 juin 2026 dans la presse. Imaginez avoir toutes vos cartes et tous vos documents officiels dans votre poche. Permis de conduire, carte d'assurance maladie, assurance tout court, passeport, visa, abonnement au gym, en plus de vos clés d'accès en ligne. Tout dans une seule application mobile, sécurisée et inviolable. Ce concept d'identité numérique unifiée commence à prendre forme. Un programmeur russe et son partenaire ukrainien l'ont créé à Montréal. Originaire d'Europe de l'Est, Andrei Baev et Simon Gardinier ont choisi de s'établir à Montréal en 2022. Ils ne parlaient pas français à leur arrivée, mais ont suivi le parcours de francisation et se sont rapidement intégrés au tissu local. C'est précisément leur expérience bureaucratique d'immigration qui a agi comme catalyseur pour leur invention. Aux prises avec l'obligation de fournir un historique de voyage exhaustif et des dizaines de documents officiels, les deux designers de formation s'échangeaient leurs informations sensibles dans une note chiffrée sur leur téléphone. L'exercice est rapidement devenu un fouillis ingéable de captures d'écran et de copier-coller. Devant l'absence d'un outil natif capable de stocker tout ce qui n'est pas un mot de passe, ils ont décidé de le créer eux-mêmes. André s'est plongé dans la programmation et Simon a pris en charge le design visuel, les bases de données et les communications. En 2023, la société Foyer Objet s'incorporait à Montréal. Son application phare, Uplock, était lancée. Un coffre-fort numérique pour tout. Uplock est une espèce de coffre-fort numérique, chiffré et ultra-sécurisé pour tout. C'est comme si votre gestionnaire de mots de passe, votre portefeuille et même ce classeur à la maison où vous conservez précieusement tous les documents importants de votre famille ne faisaient plus qu'un. Uplock numérise et stocke les cartes de santé, les numéros d'assurance sociale, les dossiers médicaux, les licences de logiciels et même d'éventuels documents d'immigration. Ça se synchronise partout, de l'iPhone à l'Apple Watch. Au quotidien, l'utilisateur peut afficher le code-barre d'une carte de fidélité ou sa carte d'accès au parc de la CEPAC directement sur son poignet. Tout ça est chiffré à partir des protocoles de sécurité d'Apple qui, à ce jour, n'ont jamais été piratés. Apple n'a même aucune idée de ce que font ses utilisateurs derrière ce chiffrement. En d'autres mots, Uplock est le prototype d'une identité numérique universelle, indépendante, fiable et entièrement confidentielle. Et elle ne coûte pas particulièrement cher, 3 $ par mois, 15 $ par an ou un paiement de 50 $ à vie, 90 $ pour la version familiale. Agilité et interopérabilité. Interrogé sur les similitudes entre Uplock et l'idée d'une identité numérique québécoise, André et Simon demeurent prudents, mais pragmatiques. Si le gouvernement ouvrait des passerelles logicielles pour intégrer ces documents officiels de manière sécurisée, on sauterait sur l'occasion, dit André Baeuf. Mais bâtir un projet gouvernemental à partir de zéro, nous ne sommes pas intéressés. Ce serait tellement complexe, ajoute le jeune entrepreneur. Vu le passé informatique récent du gouvernement, cela aurait de bonnes chances de mal se terminer aussi. Ou de passer à côté d'un maillage indispensable avec les grandes plateformes numériques pour séduire des utilisateurs de tous les horizons. En utilisant les interfaces de programmation natives d'Apple, et sans trop le savoir, les deux programmeurs ont créé une application que les personnes moins habiles avec la technologie adorent. Elle est entièrement compatible avec VoiceOver, qui aide les personnes malvoyantes à naviguer sur leur téléphone, et avec les autres outils d'accessibilité intégrés à l'iPhone. On ne peut pas en dire autant de sa clique. Foyer Objet, l'entreprise d'André et de Simon, ne compte que 2 employés, eux-mêmes. Ils peuvent répondre en quelques jours aux demandes de leurs quelques milliers d'utilisateurs en améliorant leur application. Ils ne composent pas avec la lourdeur bureaucratique des ministères et des grandes entreprises TI. Et pourtant, Uplock coche toutes les cases pour centraliser, numériser et protéger l'identité sous toutes ses formes de ses utilisateurs. Sans serveur, sans demander de nom ni d'adresse courriel, sans intégrer d'outils de télémétrie ou d'analyse tierce. Tout réside exclusivement dans l'espace privé de stockage infonuagique de l'utilisateur, ce qui séduit particulièrement les marchés très à cheval sur la confidentialité, comme l'Allemagne. Et pendant que les comités ministériels planchent sur des devis techniques, Uplock s'apprête à élargir ses catégories cet été pour inclure les cartes de bibliothèque et les abonnements de gym. Bref, l'identité numérique québécoise viendra peut-être d'un grand appel d'offres publiques, mais peut-être viendra-t-elle d'ailleurs. 2 immigrants se sont établis à Montréal, ont appris à programmer, ont fondé une entreprise et ont créé l'application Uplock. Pendant tout ce temps, à Québec, on indique que le service d'authentification gouvernementale est en déploiement graduel auprès des ministères et organismes publics. C'était « L'identité numérique québécoise existe déjà et elle a été créée par 2 immigrants », un texte d'Alain McKenna, paru le 10 juin 2026 dans la presse.
Des messages qui nient la réalité de l'Holocauste, publiés dans des albums de finissants. Un texte de Radio-Canada, d'après le reportage de Sabrina Fabian de CBC, paru le 17 juin 2026 sur le site ICI Nouvelle-Écosse. Des messages qui nient la réalité historique de l'Holocauste ou mettent en doute sa gravité ont été publiés ce printemps dans les albums de finissants de 2 écoles secondaires canadiennes. Dans un album de l'école West Bedford High à Halifax, en Nouvelle-Écosse, un message accompagnant la photo d'un élève minimisait le nombre de victimes du génocide des Juifs par les nazis et leurs complices. Une citation négationniste a aussi été publiée cette année dans l'album de finissant d'une école secondaire de Toronto, Lawrence Park Collegiate Institute. Qu'est-ce que le négationnisme ? La négation de l'Holocauste est un discours et une propagande qui nie la réalité historique et l'ampleur de l'extermination des Juifs par les nazis et leurs complices pendant la Seconde Guerre mondiale, extermination connue sous le nom d'Holocauste ou de Shoah. Source : définition pratique de la négation et de la distorsion de l'Holocauste sur le site canada.ca. En entrevue, Nelly Spocker a raconté que son fils, qui est en 10e année à l'école West Bedford, a mentionné la citation négationniste publiée dans son album de finissant. La mère a aussi entendu parler de la chose dans un groupe Facebook qui rassemble des parents d'élèves de cette école. Elle dit avoir beaucoup de mal à s'expliquer comment une citation de la sorte a pu échapper à l'attention du comité chargé de l'album annuel. C'est douloureux de constater la montée de ce langage et la facilité avec laquelle ces mots sont utilisés sans vraiment réfléchir aux conséquences pour les personnes qui les lisent, a dit la néo-écossaise, dont les grands-parents maternels étaient des survivants de l'Holocauste. Dans un courriel aux parents, le directeur de l'école West Bedford High, Sean MacDonald, a présenté des excuses pour ce contenu antisémite et polarisant. Ces commentaires auraient dû être identifiés et supprimés avant que l'album soit imprimé, a-t-il écrit, sans toutefois expliquer pourquoi personne n'avait remarqué les passages antisémites. Le Centre régional pour l'éducation d'Halifax n'a pas répondu à une demande de renseignements additionnels sur cette situation. L'école a demandé à ses élèves de retourner leur album de finissant. Ils seront échangés pour une nouvelle version, imprimée sans les commentaires négationnistes. J'apprécie sincèrement la rapidité avec laquelle le directeur a réagi à la situation, a déclaré Nelly Spocker. À Toronto, les élèves de l'Institute Collegial Lawrence Park peuvent aussi échanger leur album pour une copie corrigée. Il n'y a absolument aucune place dans nos écoles pour la haine ou la discrimination sous quelque forme que ce soit, et cela ne sera pas toléré, a indiqué dans une déclaration écrite le porte-parole de la commission scolaire du district de Toronto, Ryan Bird. Impossible de ne pas savoir. Jamie Kirshner-Roberts, directrice principale des politiques à l'Organisation de défense des droits de la personne Friends of Simon Wiesenthal Center, affirme être en communication avec l'école torontoise et dit que le groupe offre à l'élève en question de participer à un programme de justice réparatrice. Selon elle, il est raisonnable de croire qu'une personne qui n'est pas familière avec ce qu'elle qualifie de langage codé néo-nazi ne saisisse pas la véritable signification de message qui nie l'Holocauste. Cependant, elle soutient qu'il est impossible de conclure que les étudiants ne savaient pas ce qu'ils faisaient en soumettant de telles citations pour publication dans l'album. Jamie Kirshner-Roberts dit que l'organisme a offert ses services de programmes éducatifs à l'intention des élèves pour l'automne prochain et que l'école examinera cette possibilité. L'école s'est vraiment surpassée dans ses efforts pour réparer le tort causé. J'apprécie énormément, car nous ne voyons pas cela aussi souvent que nous le souhaiterions, déclare-t-elle. Il n'a pas été possible d'obtenir de commentaires des élèves en question ou de leur famille. Depuis l'année scolaire qui se termine ces jours-ci, les écoles de l'Ontario ont un module renforcé et élargi sur l'Holocauste, inclus obligatoirement dans les cours d'histoire de 10e année. La Colombie-Britannique a quant à elle ajouté l'enseignement de l'Holocauste à son cours Sciences humaines et sociales de 10e année. C'était « Des messages qui nient la réalité de l'Holocauste publiés dans des albums de finissant », un texte de Radio-Canada, d'après le reportage de Sabrina Fabian de CBC, paru le 17 juin 2026 sur le site ICI Nouvelle-Écosse.
Ces enseignants qu'on n'oublie jamais. Un témoignage de Stéphane Paradis, paru le 19 juin 2026 dans la presse. À travers le portrait de son père, professeur de mathématiques au sens de l'humour hors pair, Stéphane Paradis rend hommage à tous ceux qui enseignent. À l'heure où on parle beaucoup de pénurie, de décrochage et d'essoufflement dans nos écoles, il serait injuste d'oublier celles et ceux qui, chaque jour encore, marquent des vies entières. Mon père enseignait les mathématiques fortes de 4e secondaire, et les élèves se bousculaient au portillon pour l'avoir comme enseignant. Sa réputation dépassait largement Plessisville. Paul-Henri avait un secret. Transformer un cours à la base perçu comme aride en quelque chose d'excitant, de mémorable. Sa recette? L'humour. Un, deux ou trois fois par cours, il lançait une blague ou une anecdote, et son humour faisait mouche presque à tout coup. En ai-je la preuve? Oui, j'ai été son élève pendant un an. Ses références, il ne les puisait pas dans les livres de Gilles Latulippe, Clémence Desrochers ou Raymond DeVos. Un prof à l'écoute. Il accumulait les boutades en étant à l'écoute, à l'affût de nos potins révélés dans les corridors, attentif aux bouts de papier échangés de pupitre en pupitre, ancêtre des textos, ou encore à nous racontant ses aventures vécues sur sa terre à bois. Papa avait le don de synthétiser toute cette information et de nous la retourner avec humour, toujours dans un respect qui lui faisait honneur, sans jamais dénigrer. Dans mon souvenir, il avait très peu à faire en matière de gestion de classe. Nous étions scotchés à ce qu'allait devenir sa prochaine intervention. Même ses silences parlaient d'eux-mêmes, et avec force. Paul-Henri savait faire rimer amour et humour. En sa présence, on avait toutes les chances de vivre un moment marquant, multipliant les rires et les fous rires. Ce faisant, notre prof nous exprimait toute l'affection qu'il portait à nos rêves, à nos espoirs, à nos différences et à ce qu'il savait de chacune et chacun. Hélas, ce qu'il gardait en poche tenait peut-être dans cette évidence. Pour être intéressant, encore faut-il d'abord être intéressé. Par la bande, chacun de nous percevait probablement son désir de prendre le temps. Le temps de porter attention à notre réalité, le temps de nous inviter dans son monde après avoir pris soin de s'ouvrir au nôtre. En écrivant ces lignes, je prends conscience qu'il épelait le mot « amour » avec une orthographe bien à lui. T.E.M.P.S. Récemment, je dînais avec lui qui s'apprête à célébrer ses 90 ans, tentant de lui rendre l'appareil en prenant le temps d'écouter ses phrases devenues un peu plus lentes, mais toujours teintées d'une acuité que je souhaite voir l'accompagner encore longtemps. À l'affût, moi aussi, de la blague qui fera mouche, et profitant du fou rire qu'il a lui-même provoqué chez lui, en me racontant une anecdote vécue à sa résidence. Son histoire, j'en suis convaincu, ressemble à celle de milliers de professionnels et professionnelles de l'éducation qui, malgré la fatigue et la pression, réussissent encore à transformer leurs interventions en puissantes expériences humaines, à redonner le goût d'apprendre, à faire rimer, encore et toujours, amour et humour. C'était « Ces enseignants qu'on n'oublie jamais », un témoignage de Stéphane Paradis, paru le 19 juin 2026 dans la presse.